Donc ensuite, on a le plaisir d'accueillir l'association Atelier 21. C'est Simon qui se chargera de l'introduction. Si vous vous intéressez à ces sujets, vous avez forcément croisé leur travail, que ce soit avec le système pour recharger les piles non rechargeables, que ce soit à travers la frise paléo-énergie qui est juste derrière, le livre Rétro-Futur ou le Rétro-Futur Museum qui montre un petit peu partout en France et en Europe en ce moment. Donc ils ont un travail très étayé sur cette question avec un historique d'une vingtaine d'années, notamment avec le Solar Sun System, qui est un système qui peut être alimenté à l'énergie solaire et à l'énergie de cyclistes, qui sera mise en démo tout à l'heure, juste après les conférences. Donc je laisse la parole à Simon qui va nous montrer toutes ses recherches et ses projets. Merci.
Merci beaucoup. Je pense que je vais faire de la redite parce que je vais forcément vous expliquer ce que c'est l'Atelier 21. Donc moi c'est Simon Bouchaudy, vous m'avez vu peut-être ce matin à 13h pour la projection de mon documentaire. Je suis fait partie d'une équipe de 4 salariés et de 3 stagiaires. Donc dans la salle il y a Simona, Maïva, Anastasia qui est souvent à l'accueil, Raphaël, Loïc et Cédric Carl qui est le fondateur de l'association qui a été fondée en 2011. Mais je vais vous parler des projets même avant. Désolé. Si vous avez des questions, en fait, vous retrouvez tout sur le site Atelier 21 parce qu'on fait beaucoup de projets. Nous, on fait des projets globalement de sensibilisation et de formation au sujet d'énergie à travers l'histoire de l'énergie, mais aussi à travers des démarches d'ateliers qui peuvent être plutôt pratiques, où je vais esquisser des choses, mais je vous invite à faire un tour sur notre site internet. Le premier projet de l'association, c'était avant même la création de l'association, c'était en Suisse en 99, à un moment où il y avait une votation populaire, c'est une sorte de référendum d'initiative citoyenne sur une taxe pour l'énergie solaire. En fait, en 99, c'était 1% des énergies fossiles qui devaient être taxées pour les énergies renouvelables et la moitié pour le solaire. Et à ce propos, Cédric, qui habitait à Lausanne à l'époque, s'est dit qu'il fallait faire de la sensibilisation sur ce sujet et parler de l'énergie solaire, mais pas forcément d'un point de vue technique. Et son idée, c'était de faire la fête grâce à l'énergie solaire. Donc au début, ça ressemblait plutôt à celui-là, là. C'était une charrette. Le but, c'était vraiment de brancher ces platines à des panneaux solaires. Ultra basique, mais assez fédérateur. Et cette initiative a ensuite été répliquée un peu partout dans le monde, puisque le but, c'était que ça soit open source au maximum. Et aujourd'hui, on a un réseau d'une douzaine, il y en a qui existent plus, parce que depuis 25 ans, le Solar Sun System continue. Et nous, à Paris, on en a un, vous le verrez ce soir dans la cour de l'Académie du Climat. On fait des événements, que ce soit des festivals, des festivités quelconques. Et je ne vous en dis pas plus, parce que vous verrez en action ce soir. Mais voilà, ça, c'est celui dans le sud de la France. Et ici à Hong Kong, donc on va sur tous les continents. Ici c'était à Miami. On a un autre projet que vous avez peut-être déjà croisé pour les Parisiennes et les Parisiens sur le Jardin des Traverses, qui est une section de la petite ceinture entre Porte de la Chapelle et Porte de Clignancourt. Donc c'est un endroit qui est libre d'accès sur lequel vous pouvez trouver l'Écolab, qui est un container école dont le but est de former d'un point de vue pratique sur l'autonomie énergétique et les low-tech. Qu'est-ce que ça implique de produire son énergie soi-même? Comment on peut réaliser, à l'image du low-tech lab, des appareils à faible coût qui peuvent nous être utiles et répondre à des besoins précis? Donc là, pareil, on a plein de choses, n'hésitez pas à passer. On n'est pas toujours sur place, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez faire une visite. Mais on a plein de choses sur le solaire. J'en dis pas plus non plus. Ça a été aussi un travail qui a été reproduit à Conakry, en Guinée, puisque le but, c'est de pouvoir à chaque fois reproduire ces outils-là ailleurs. Et donc, ça a été fait en Guinée. et peut-être bientôt ailleurs, mais ce n'est pas sûr encore. Le gros projet de l'association, qui a été financé en partie par le Solar Sun System à ses débuts, c'est le projet paléo-énergétique, qui a un programme de recherche participative sur l'histoire des inventions liées à la transition énergétique. En fait, ça a commencé à la COP21 en 2015. L'idée, c'était de se dire, il y a plein de gens du monde entier qui vont être ici, des experts et expertes de tous les pays, et on a envie de collecter toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes idées, les inventions qui parfois sont très localisées, et les mettre en commun pour avoir un site ressource sur cette thématique-là. Donc ça a donné 10 années de recherche, beaucoup de personnes impliquées, des prix de sciences participatives, et un site web qui va être refait par Raphaël, qui est entré dans la salle à l'instant, qui est aujourd'hui en plusieurs langues, mais qui est un petit peu obsolète, donc ne vous en faites pas, dans quelques mois, on aura un nouveau site tout neuf. Puisque l'idée, c'est de pouvoir aussi référencer des choses qu'on nous soumet, parce que j'imagine que vous connaissez aussi des inventions qu'on n'a pas forcément référencées dans ce programme et ce site internet. Voilà le type d'objet que vous retrouvez. Et ça a donné un livre qui s'appelle Rétrofutur, qui est une sorte de compilation best-of que vous retrouvez d'ailleurs à la sortie de la salle. Si ça vous intéresse, on en a quelques exemplaires à vendre. Et c'est, encore une fois, une bible sur les inventions liées à l'énergie. Mais ça peut être aussi bien le stockage de l'énergie que la mobilité, que l'habitat, à peu près tous les sujets liés à l'énergie, puisque l'énergie, encore une fois, est partout autour de nous. Ça, c'est notre méthodologie. Inventorier, donc c'est forcément faire un état des lieux de tout ce qui existe. Évaluer, c'est de se dire, il y a des choses qui ont existé un court temps, peut-être parce qu'il y avait des problèmes ou des contextes qui ont fait que ça n'a pas forcément perduré. Mais en tout cas, savoir aussi déceler les bonnes pratiques, des pratiques presque bonnes et des mauvaises, c'est important. Et puis, notre démarche, c'est aussi d'actualiser, de remettre au goût du jour certaines techniques et pratiques qui nous paraissent pertinentes par rapport à nos problématiques environnementales, sociales, et économique actuel. Et à ce propos, Nicolas a parlé du projet RegenBox, je vous inviterai à regarder, qui est un projet initié par l'Atelier 21 de régénération des piles alcalines. Vous trouverez un petit cartel aussi sur la frise qui est juste à la sortie de la salle. Nous, on se place vraiment dans une démarche de rétro-tech, à aller chercher dans le passé, mais aussi de territoire tech, donc chercher tout ce qui est lié à un territoire, ce qu'on appelle le savoir vernaculaire, et aussi demos tech, donc tout ce qui est en libre accès, tout ce qui est open source, tout ce qui est appropriable et facile d'accès. La frise paléo-énergétique, vous en verrez un extrait thématique dehors, mais en fait on fait des expositions où on a 10 mètres d'invention, parce qu'on en a environ 500. Donc on la déploie sous des différentes thématiques, en long, en large. Je voulais que ça soit un petit peu participatif quand même. Je vais vous faire un mini quiz, on en fait souvent, un peu plus long. Mais là je vais vous poser 3 questions. Je vais vous poser les questions, vous allez lire les réponses, et ensuite je vais vous dire qui vote pour ça, et vous voterez à main levée. C'est des questions sur des dates d'invention, parce que nous, notre travail, c'est aussi un petit peu de casser ce mythe de l'innovation, des choses qui sont toujours nouvelles, neuves et ultra technologiques. On montre qu'il y a des choses qui existaient il y a bien longtemps et qui parfois paraissent beaucoup plus récentes qu'elles ne le sont. Alors, saviez-vous que le premier chauffe-eau solaire à but commercial fut breveté aux États-Unis ? Il repose sur un principe d'effet de serre consistant à placer des contenants métalliques au soleil pour accumuler et conserver de la chaleur. Il s'appelait Climax. Son retour d'investissement, c'était 2 ans et demi, car il était vendu $25 à l'époque et permettait d'économiser $9 par an. En quelle année a été commercialisé le Climax Solar Water Heater ? Je vous laisse 10 secondes pour lire, donc c'est 1891, 1932, 1956. Qui vote pour 1891? Ok. 1932. À peu près pareil. 1956. Eh bien, bravo pour les personnes qui ont dit 1891. Et tout à l'heure, dans une autre, une précédente présentation, vous avez parlé des chauffe-eau solaires et aux États-Unis, qui, vous parliez des années 30, mais même avant, dans les années 1900, il y avait un tiers des foyers de Pasadena, en Californie, qui étaient équipés de chauffe-eau solaire. Donc dans les années 1900, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Et puis effectivement, plein de raisons ont fait que ça a disparu, malheureusement. Deuxième question, je vais aller un peu plus vite sur la question. Jean-Luc Perrier, un inventeur français et professeur de mathématiques, a conçu un héliostat. Alors, faut pas se fier à l'image qui est à côté, hein, qui permettait, avec des miroirs, de concentrer les rayons du soleil. Et c'était à l'époque la troisième plus grande parabole qu'il avait fait tout seul dans son jardin. En quelle année Jean-Luc Perrier a produit avec cette parabole de l'hydrogène en présence de la télévision et de nombreux journalistes? 47, 58, 79, 92. Qui vote pour 1947? Qui vote pour 1958? Qui vote pour 1979? Et 92? Eh bien, c'était 79 cette fois-ci. Donc, vous voyez, là, c'était vraiment dans son jardin. Il y a une super vidéo de l'INA, si ça vous intéresse. Vous tapez Jean-Luc Perrier, hydrogène INA. Un reportage de 4 minutes excellent. Il faisait tourner sa voiture, une Simca 1000, à l'hydrogène. Donc, il explique comment ça marchait. Et l'hydrogène, il le faisait avec sa grande parabole, là. Et il a écrit pas mal de livres là-dessus. Mais c'est quelqu'un qu'on connaît finalement assez peu et qui a été important sur ce sujet. Dernière question. Un ouvrage prospectif écrit par un auteur français très connu a été assez précurseur car il parle de véhicules en autopartage et aussi d'une société qui s'émancipe du charbon. Ce livre s'appelle « Travail ». Peut-être que vous le connaissez, c'est son dernier bouquin. En quelle année est-il sorti? Est-ce que c'est 1901, 1919 ou 1937? Et bonus pour la personne qui a son auteur. Qui vote pour 1901? Qui vote pour 1919? Sortie de la guerre. Qui vote 1937? Et est-ce qu'une personne qui connaît son auteur? Vincent, vas-y. Et oui, c'est Émile Zola qui, en 1901, dans son dernier ouvrage, a écrit une intrigue amoureuse qui est assez classique, mais dans laquelle, en fond, vous avez une description d'une entreprise en fait, qui s'émancipe du charbon et donne de bien meilleures conditions de travail à ses employés. Comme on parle pas mal du passé, nous, je voulais vous faire un tout petit passage historique. Alors, c'est pas un cours, hein, on donne des cours aussi, mais c'est pas l'idée. Là, c'est plus de vous montrer un peu des aperçus entre objets pratiques anciennes et ce qu'on peut refaire aujourd'hui, certaines réinterprétations. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en Grèce antique, la flamme olympique pouvait être allumée grâce à ce qu'on appelle une scaphia, une sorte de miroir qui concentrait les rayons du soleil. Et donc ça, c'était en 776 avant Jésus-Christ. Donc c'est déjà une façon d'utiliser l'énergie solaire qu'on utilisait bien avant pour se chauffer, faire sécher des aliments, des vêtements, tout ça. Mais en tout cas, ça ne date pas d'aujourd'hui, et ni d'hier, c'était il y a très longtemps. En 1515, il n'est pas forcément connu pour ça, mais Léonard de Vinci avait décrit une expérience, parce qu'il faisait fondre du bronze grâce à une sorte de parabole, et il avait décrit ses expériences de manière textuelle, mais aussi par des schémas. Et il voulait faire une statue en bronze en 1515, je ne sais plus pour quelle occasion, mais malheureusement, cette grande statue n'a jamais eu lieu, car le bronze a été réquisitionné pour faire des canons à l'époque. Mais on est assez curieux, s'il avait réussi à faire cette statue, est-ce que ça aurait donné un autre élan à l'énergie solaire ? En tout cas, on se dit qu'à l'époque, il était vraiment précurseur et ça nous inspire pas mal. La concentration solaire a été utilisée depuis longtemps, mais aujourd'hui, vous connaissez peut-être le four de Mont-Louis qui est dans les Pyrénées, qui a été inventé par Félix Trombe, qui est aussi très connu pour le mur Trombe. Peut-être que ça vous dit quelque chose. En tout cas, c'est un lieu qui est très ensoleillé, en altitude, et ce four qui a été finalisé en 1949, il permet de faire fondre du métal, de cuire de la céramique, mais de manière industrielle, quoi. C'était le premier four expérimental du monde et le plus grand à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à visiter si vous êtes dans les Pyrénées. On parle aussi de différentes thématiques et notamment du vol bas carbone. Là, c'est un vol qui était pas vraiment fait exprès. En fait, c'est une montgolfière qui séchait avec du vernis au soleil en 1784 à Dijon. Et elle s'est envolée parce que la température intérieure au soleil devenait beaucoup plus chaude que la température extérieure. Et finalement, ça a soulevé un petit garçon, apparemment, fut ce qui a été raconté. Et la montgolfière a fini 250 pas plus loin dans des arbres. Le petit garçon s'en est bien sorti, mais c'était la première expérience inattendue de vol bas carbone, vol solaire. Et si vous connaissez le projet Aerosen lancé par Thomas Saraceno, c'est l'idée de faire chauffer un grand ballon noir. Donc il n'y a pas d'hélium, hein, il n'y a pas de chauffage, quoi que ce soit. C'est juste le soleil qui chauffe l'air à l'intérieur, et la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur fait que le ballon s'envole et qu'on peut soulever des personnes. Donc ça, c'est plutôt un projet artistique, mais qui a donné lieu à une communauté mondiale où les gens testent ce genre de vol et parlent de ces démarches. En 1882, alors c'était la fête de la jeunesse, mais vous aviez aussi en 1878 l'exposition universelle. À cette occasion, Augustin Mouchot, qui est un ingénieur français qui a vécu longtemps à Tours, avait fait une parabole solaire qui permettait de faire tourner une turbine et une imprimerie avec laquelle il imprimait le Soleil Journal. Et le Soleil Journal, c'était quelque chose qui était répandu à l'époque, mais surtout c'était un objet événementiel assez fou de se dire qu'on pouvait avoir une imprimante autonome en énergie. Et ça, à la fin du 19e siècle. Encore une personne qui a fait beaucoup de travaux sur les applications industrielles de la chaleur solaire, mais qui a fini sa vie dans la misère parce qu'il s'est fait un peu rouler par son acolyte Abel Piffre à l'époque. En tout cas, c'est des travaux qui ont inspiré plein d'autres paraboles. Alors ça, vous en verrez plein, mais celle-ci, c'est celle de Solar Brother, qui est industrialisée, qui permet de cuire des aliments avec le soleil, tout simplement. En architecture aussi, on a plein d'exemples de maisons passives, de maisons solaires, comme on les appelait pas mal avant. L'architecture bioclimatique, c'est quelque chose qui est pas mal en vogue quand même depuis quelques années. Et on aime bien cet exemple parce que Maria Telkes, c'est une chercheuse chimiste qui avait fait équipe avec une architecte, Eleanor Raymond, pour construire des maisons qui pouvaient stocker la chaleur du soleil dans les combles pendant la journée et la redistribuer via des sels de Glauber, donc c'est un phénomène chimique, pour avoir de la chaleur sans chauffage. À l'époque, c'était quand même assez dingue. Et il y a eu plein d'autres types d'habitats, mais beaucoup plus récemment, vous avez les héliodômes, qui est un modèle d'architecture bioclimatique basé sur le cycle du soleil, Donc plein, pour montrer à quel point le soleil nous inspire à la fois dans notre conception architecturale, mais aussi des objets. Les cellules photovoltaïques qui ont beaucoup évolué. Dans les années 50, on avait 6% de rendement sur 2 cm². Et aujourd'hui, donc, on est plutôt aux alentours de 20 pour des panneaux classiques. Et on en retrouve partout maintenant, les panneaux photovoltaïques, donc, qui permettent de créer de l'électricité à partir du soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être autonome. Enfin, on peut générer des objets autonomes. Et on aime bien cette petite lampe, il y en a d'autres, qui étaient développées pour des gens qui avaient peu accès à l'énergie. Donc au dos, vous avez un petit panneau photovoltaïque. Little Sun de Olafur Eliasson, artiste très connu. Jean-Luc Perrier, on en a déjà parlé, mais la mobilité grâce à l'hydrogène solaire, c'est aussi un enjeu intéressant. Et la mobilité, ben, on voit que c'est aujourd'hui d'actualité. Là, on a un véhicule intermédiaire. On pourra reparler plus amplement pour une prochaine fois des véhicules intermédiaires. De Jean Dard, un associé qui développe ce vélo-là et qui l'a équipé de panneaux photovoltaïques pour traverser le Maroc. Et là, il part dans un mois faire sa traversée en autonomie totale grâce à ce véhicule. Enfin, là, jusqu'à présent, on parlait de systèmes low-tech, donc on va dire des objets qui demandaient une faible technologie, qui étaient assez réparables, appropriables, tout ça. Mais on aime aussi les démarches low-tech, même si c'est sur des systèmes qui peuvent être high-tech, comme Internet. En fait, Internet, ça demande beaucoup d'infrastructures, des ressources, tout ça. Mais il y a des gens qui réfléchissent à diminuer cet impact, et notamment le site du Low-Tech Magazine, qui est intéressant car il marche uniquement quand il y a du soleil, parce qu'il est hébergé sur un petit serveur local qui est branché à un panneau solaire. Et ça depuis pas mal d'années, quasiment 10 ans. Et aujourd'hui, même EDF essaye de réutiliser ces principes-là pour réfléchir à la réutilisation des panneaux. Donc ça, c'est des panneaux qui doivent être en général changés tous les 15 ans sur les exploitations. Et donc, comment on peut leur donner une deuxième vie alors qu'ils sont encore à 80% de leur capacité ? Eh bien, c'est pourquoi pas en faisant des petits data centers qui sont très localisés et autonomes en énergie. Toutes ces inventions, vous les retrouvez dans nos frises. Donc, on fait pas mal d'expositions. Et on a aussi un musée qui est dans le 13e, 5 Allée Paris-Ivry. N'hésitez pas à nous rendre visite. On montre plein de gens parce que l'idée, c'est de parler des objets, mais aussi de parler des histoires et des contextes historiques qui sont autour de ces objets. Et on a ce qu'on appelle les paléo-héros et héroïnes qui montrent des inventions et leur inventeur juste à côté avec des QR codes qui permettent de les voir en réalité augmentée. Donc c'est assez interactif. Et ce musée, comme je vous l'ai montré, c'est l'idée de voir à chaque fois des projets anciens mis en parallèle avec des projets de design ou industriels contemporains qui réactualisent certaines techniques ou pratiques. Ces visites, c'est uniquement sur rendez-vous, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail si ça vous intéresse. En tout cas, on sera ravis de vous accueillir et de vous faire découvrir un petit peu tout ce qu'on y fait. Et ce petit graphique pour vous dire qu'il faut vraiment aujourd'hui travailler sur l'économie circulaire de la connaissance et que c'est ce qu'on essaye de faire en cherchant dans le passé. Et on vous invite à nous rejoindre dans cet élan. Merci beaucoup.